la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe Fanja. Philippe, vous êtes directeur de l'Association française des orchestres qui réunit 41 orchestres et a pour objectif de promouvoir les musiques de patrimoine et de création ainsi que ses interprètes, comme relevant du service public de la culture au service de l'intérêt général. Vous êtes également l'un des initiateurs du collectif Accord Majeur qui s'est réuni l'année dernière pour sa 9e édition à Aix-en-Provence et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière musicale pendant une journée. L'année dernière, l'intitulé de la rencontre était « Recomposer avec le vivant » et elle a réuni 350 professionnels et décideurs publics autour des enjeux de la musique face aux défis de la question écologique et sociale. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Philippe, première question, après 2 ans de crise sanitaire, comment vont les musiciens et les musiciennes des orchestres français aujourd'hui, qui sont nos collègues de la filière culturelle? Quelle est leur morale après 2 années de difficultés à travailler? Voit-il le bout du tunnel? Et réussissez-vous au sein des orchestres à vous projeter dans l'avenir, dans la musique, dans le répertoire? Et le public tant attendu est-il de retour dans les salles de concert?
Alors, beaucoup de questions, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Alors, commençons par les artistes eux-mêmes. L'Association française des orchestres réunit les orchestres permanents en France, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec des musiciens sous contrat à durée indéterminée et qui sont inscrits sur des territoires pour une très longue période. Pour ces orchestres-là, ils sont très largement financés sur fonds publics, donc principalement les collectivités territoriales et également le ministère de la Culture. La crise a peut-être été moins difficile à passer que pour les musiciens indépendants, les musiciens freelance, comme on dit en bon français, qui eux ont terriblement souffert. Pour ce qui concerne les orchestres, passé le traumatisme du premier confinement ou du début du premier confinement, l'activité a très vite repris, soit en répétition, soit dans un grand nombre de cas, en enregistrement, des enregistrements audiovisuels ou des enregistrements sont seuls, et également en préparation du travail pour les semaines ou les mois à venir. Donc l'activité a repris assez vite, du coup le moral est plutôt bon. Là où ça coince un peu, là où le moral des musiciens est éventuellement un peu atteint, c'est pour les mêmes raisons que vous et moi, c'est-à-dire le port du masque, les difficultés sanitaires, les difficultés de mise en œuvre du protocole sanitaire, l'immense déception quand on doit annuler une ou plusieurs représentations parce que l'un des musiciens est positif et que voilà, il ne peut pas rejoindre ses collègues. Donc cette désorganisation complète de l'activité quotidienne est probablement ce qui pèse le plus sur les artistes eux-mêmes. Après, concernant le public, c'est vraiment une autre question. Les orchestres font évidemment tout pour conserver une relation avec le public. Ils l'ont fait pendant la période de confinement. Ils continuent à le faire. L'activité a repris. Pour l'instant, le public n'est pas au rendez-vous à 100%, mais peut-être parce que il y a encore des inquiétudes, parce que c'est inconfortable de garder son masque pendant un concert, etc. Je pense qu'à partir de septembre, on est très nombreux à penser qu'il va y avoir une forme de résilience et qu'on va reprendre, que le public va reprendre ses habitudes de se déplacer vers la salle de concert pour retrouver le bonheur de l'émotion musicale en direct. C'est en tout cas autour de cette idée-là qu'on se concentre en ce moment.
Merci beaucoup, Philippe. Comme je l'ai évoqué en début d'entretien, vous êtes l'un des initiateurs d'Accord Majeur. Cette 10e édition en juillet à Aix va-t-elle aborder des sujets d'actualité en lien avec la crise que nous avons traversée?
Oui, bien sûr. Alors je ne vais pas dévoiler le contenu intégral. intégrale de cette journée du 12 juillet prochain à Aix-en-Provence. Mais Accord Majeur a décidé de travailler autour d'un thème qui est celui de réinventer les liens avec le public. Donc précisément, il va s'agir pendant une journée entière de débattre autour du lien que le spectacle vivant, musical, entretient avec son public. Voilà, ça va être la thématique, le fil conducteur de cette journée.
Merci Philippe. Justement, le public est au cœur de nos préoccupations. Et en préparant cet entretien, j'ai pris connaissance, grâce à vous, du rapport que Anne Pourcin et Jérôme Thiébaud avaient rédigé en 2021. Intitulé « Pour un nouveau pacte symphonique ». Donc ce rapport, cette étude a été rédigée en 2021 et fait référence à une étude des publics qui avait été réalisée en 2013-2014, donc qui date un peu, et qui en fait portait sur donc une étude réalisée par l'Association française des orchestres qui portait sur les publics. Et j'ai lu cette étude, elle est passionnante, elle est très bien faite. Et il y a une notion qui m'a beaucoup intéressé, c'est celle de carrière de spectateur mise en lumière par l'enquête et qui révèle que un peu plus de 45% des publics qui entrent dans la carrière de spectateur ou de mélomane le font à l'âge adulte. Est-ce que cette notion de carrière de spectateur est encore opérante aujourd'hui après 2 ans de difficultés?
Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. C'est-à-dire que le bilan du traumatisme, entre guillemets, du Covid sur la pratique du spectateur, il est trop tôt pour le faire. Donc, donnons-nous rendez-vous dans 2 ans, on aura peut-être des données plus précises. En revanche, le descriptif qui a été tracé par cette enquête sur les publics a révélé beaucoup de choses passionnantes, et notamment ce que vous relevez, c'est-à-dire le fait que le spectateur, il a une véritable carrière qui peut commencer très jeune, terminer très tard, ou au contraire, il peut y avoir un accès à ce désir d'aller écouter de la musique vivante assez tardif. On peut y venir parce que les enfants vous emmènent par la main. On peut y venir parce qu'on a des amis qui y vont et qui nous ont invités à dîner avant ou après le concert. Donc, il y a tout l'aspect convivialité également qui joue. Voilà, ce que signifie ce terme de carrière du spectateur, c'est qu'il faut apprécier le spectateur sur une longue durée et pas simplement à l'instant où l'on réalise l'enquête. Et du coup, je fais peut-être une parenthèse, mais utile. L'enquête dont vous parlez a donné lieu à une publication qui est sortie donc en décembre dernier. Le livre s'appelle « Un public mosaïque » et il est disponible auprès de l'éditeur qui est la Tribu ou auprès de l'Association française des orchestres ou dans les librairies. Ce qui est intéressant, c'est que cette enquête est la première du genre, c'est-à-dire qu'elle porte sur 2 périodes, la saison 2013-2014 et la saison 2018-2019, qu'une dizaine d'orchestres chaque fois ont été sollicités pour interroger leur public. Qu'on a un échantillon extrêmement important d'entretien et on a donc un grand nombre de données qualitatives et un grand nombre de données quantitatives également qui permettent de dresser une forme de portrait du spectateur tout à fait intéressante, oui.
Merci beaucoup Philippe, nous la lirons cette étude. J'ai noté le titre du livre qui s'appelle « Un public mosaïque ». Merci beaucoup. En fait, pendant la crise, vous l'avez évoqué, les orchestres, les diffuseurs de tout type d'ailleurs, hein, pas que les diffuseurs de musique, ont improvisé des stratégies palliatives d'enregistrement, de captation, d'extension numérique de l'expérience esthétique, hein, qu'elle soit musicale ou qu'elle provienne des arts visuels. J'ai lu des choses à droite à gauche en ce qui concerne la musique. Qui ressort un peu des opinions qui sont exprimées ici et là, c'est que il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui réellement établi par rapport à ces formes de captation. Donc ça, c'est un sujet qu'on peut éventuellement évoquer parce que j'aimerais savoir si on peut en fait créer un modèle économique à partir de ces captations, parce que c'est un vrai enjeu de réflexion. Et autre question liée au numérique, est-ce que on peut prolonger l'expérience du spectateur, cette carrière, de manière numérique et de façon satisfaisante? Que là, on a 2 ans de recul. Est-ce qu'on a des retours sur ce sujet?
Alors, il y a eu beaucoup de productions réalisées. La difficulté aujourd'hui, elle est moins dans la production elle-même que dans la diffusion. C'est-à-dire quels sont les relais qui permettent de montrer le plus largement possible ce qui a été enregistré par les différents orchestres. C'est ça l'énorme difficulté. Et cette difficulté se cumule avec celle que vous avez évoquée, qui est la difficulté économique, c'est-à-dire que concrètement, un enregistrement, ça coûte beaucoup d'argent et que ça ne rapporte pas grand-chose, en termes économiques en tout cas, quand on ne s'appelle pas, je ne citerai personne, mais une grande star planétaire, voilà. Donc, ces deux difficultés ne nous empêchent pas de continuer à enregistrer parce que ça fait partie vraiment de notre activité, avec néanmoins simplement une remarque qui est que toute notre activité, on la dirige vers le concert vivant. Donc, quand on réalise un enregistrement, c'est aussi pour attirer le public vers l'orchestre X ou Y, vers la salle de représentation de l'orchestre, parce que la perception du spectacle vivant par rapport au spectacle enregistré est une perception, comment dire, plus chaude, plus chaleureuse, plus humaine, plus conviviale, et que l'on sait que le public se déplace notamment attiré par la convivialité du lieu de spectacle. Voilà, donc j'ai dit, beaucoup de choses en très peu de temps là sur ce thème, mais ce sujet est d'une très très grande complexité en fait.
Oui, c'est vrai, mais je prolonge ce que vous dites, Philippe, en disant que c'est des thématiques qui sont transversales au niveau artistique et culturel et qui sont les mêmes dans le champ des arts visuels que je connais bien puisque c'est ma spécialité. Et les manières d'élargir les publics ou de toucher les publics par les voies numériques nécessitent, oui, c'est complexe, comme vous l'avez dit, ça nécessite une grosse réflexion, éventuellement un effort pour concevoir une stratégie. Revenons au public, vous l'avez dit, donc cette étude des publics de 2013-2014 insistait sur ce que vous venez d'évoquer, l'expérience physique, l'expérience dans une salle de concert, cet espace très particulier de convivialité, de sociabilité, de confort acoustique, visuel et de rencontre attire le public dans l'expérience du concert à 37%, dans 37% des situations d'écoute au concert, elle provoque dans 37% des cas la venue au concert. Vous avez évoqué aussi le fait très important que les spectateurs, les mélomanes, se rendaient aussi au concert influencés par leurs enfants. Et c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. L'enquête des publics révélait que c'était à hauteur de 12%. Est-ce que les collectivités, qui sont les collectivités territoriales, qui accueillent et financent les orchestres, avec des incitations à l'éducation artistique et culturelle, avec la création de passes culturelles incitatifs au niveau monétaire, ont un rôle particulier à jouer sur ce plan?
La question est extrêmement large. Je vais peut-être vous faire une réponse en contournant un peu votre question. Je m'explique. Je pense qu'il est très important que les décideurs au sein des collectivités territoriales, donc évidemment les élus et les équipes administratives qui les entourent, aient conscience de la réalité des choses. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé cette enquête et qu'on a sorti le livre Un public mosaïque. Et je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple porte sur ces fameux 37% que vous évoquiez tout à l'heure. La première motivation à venir au concert, ça n'est pas la star, c'est l'œuvre. C'est la première motivation des publics, des orchestres qui ont été enquêtés. Donc ça, c'est un point vraiment important, c'est-à-dire que même si vous mettez sur scène un très très grand artiste très réputé à l'échelle planétaire, c'est pas ça qui va faire déplacer le public en nombre, c'est avant tout l'œuvre. Premier point. La deuxième motivation dans l'ordre de citation, c'est effectivement la convivialité. Donc le confort de la salle, le fait qu'on ait envie d'y rentrer, qu'on ait envie d'y rester, qu'on s'y sente bien, c'est un point absolument essentiel. Et c'est intéressant parce que la salle de concert, ça n'est pas un temple. Les salles de concert d'aujourd'hui ne sont plus du tout construites sur le modèle du 19e avec un grand escalier qu'il fallait monter pour enfin pouvoir pousser la porte et ensuite regarder ses voisins et ses voisines dans un grand acte social et mondain. Ça n'est plus du tout ça. La salle de concert aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel l'acoustique sert la musique et sert donc la diffusion de l'œuvre jusqu'aux oreilles de l'auditeur. Donc ça, c'est vraiment un point important, travailler sur la réalité de ce qu'est le public. Et donc, pour faire le lien avec votre question sur la relation aux collectivités territoriales, ce point-là soulève ou met en avant l'importance considérable de l'existence des salles de concert et d'une qualité architecturale de ces salles. Et par qualité architecturale, je ne parle pas du tout de la forme extérieure de la salle, mais je parle de ses qualités architecturales intérieures, c'est-à-dire est-ce qu'on s'y sent bien, est-ce qu'on y trouve des endroits où se restaurer facilement, etc. Le deuxième exemple que je peux prendre par rapport aux collectivités territoriales, c'est celui de ce que j'appellerais la réussite de l'éducation artistique et culturelle. Je m'explique. L'enquête nous a appris que 12% du public, effectivement, présent dans les salles de concert, sont venus dans cette salle parce que ces enfants ou ces petits-enfants ont pris l'adulte par la main et lui ont dit « À l'école, on m'a parlé d'un truc super. D'ailleurs, je suis allé au concert. Viens avec moi, emmène-moi. On va aller écouter un concert. » Et l'adulte, évidemment, accompagne son enfant. Dans ce cas-là, on ne sait pas qui accompagne qui, d'ailleurs. Et quand les enfants sont grands, qu'ils ont quitté le foyer, ces adultes-là restent des auditeurs, ils restent des spectateurs. Et pour nous, c'est un enseignement formidable, parce que ça veut dire qu'il y a une mise en relation avec la musique classique, contemporaine, en tout cas symphonique, qui se fait à la fois vers des enfants et vers des adultes. D'où ce phénomène d'acculturation, si on peut dire, éventuellement tardive, d'entrée tardive dans la carrière de spectateur, parce qu'encore une fois, les enfants auront proposé à leurs adultes accompagnateurs d'aller éprouver ce même plaisir dans une salle de spectacle.
Merci beaucoup, Philippe. Votre réponse amène deux questions sur le répertoire, la connaissance du répertoire par les adultes et peut-être les adultes par le truchement des enfants. Est-ce que les collectivités organisent le dialogue de manière avec les orchestres, hein, je parle le dialogue collectivité territoriale association française des orchestres, pour permettre aux jeunes d'avoir une meilleure connaissance du répertoire? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question concernant le public et le jeune public en particulier, c'est qu'il y a la question de l'éducation artistique et culturelle qui est mise en œuvre au sein des établissements scolaires. C'est très important à souligner. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à approfondir sur ce sujet. Mais on voit avec les adolescents, les enfants grandissant à l'adolescence, on les voit très très réceptifs à d'autres canaux d'information et notamment les réseaux sociaux qui sont très prescripteurs à partir d'une tranche d'âge. Est-ce que ces questions sont discutées et sont-elles traitées d'une manière ou d'une autre par l'association aujourd'hui?
Alors, vous me posez deux questions, hein, j'ai bien compris.
Oui.
Voilà. Alors, quant au rôle des collectivités territoriales sur ces questions d'éducation artistique et culturelle, il est évidemment fondamental. Il est fondamental dans son aspect le plus basique, qui est celui des financements. C'est-à-dire que c'est grâce au financement public des collectivités territoriales que les orchestres peuvent développer des projets éducatifs, qu'ils peuvent engager des médiateurs, qu'ils peuvent offrir des spectacles pour le jeune public. Ils peuvent également aller à l'hôpital ou dans des quartiers difficiles, etc. Donc, le rôle des collectivités territoriales sur un plan financier est absolument essentiel. Et le financement vient d'une intention politique, bien évidemment. Et l'orchestre accompagne très volontiers cette intention. C'est-à-dire que l'orchestre, c'est un acteur citoyen sur un territoire. Et cette vocation-là, elle accompagne évidemment le travail des élus sur ce même territoire, sans conteste. Ensuite, on peut dire aussi que peut-être l'élu a-t-il un rôle symbolique particulièrement fort à l'échelle notamment d'une commune, et que voir l'élu dans la salle de concert a une signification, c'est-à-dire que l'élu représente d'une certaine manière l'attachement qu'il peut avoir pour l'orchestre de sa ville, et c'est une manière pour lui de manifester auprès de la population comme un encouragement à se déplacer en nombre dans la salle de concert. Donc cette action symbolique-là, elle est vraiment extrêmement importante. Après, pardon, quelle était votre deuxième question?
La deuxième question, j'avais évoqué le répertoire, mais là on peut en parler juste un peu plus tard. C'était le moyen de toucher le jeune public. On a évoqué l'éducation artistique et culturelle, mais ces adolescents, enfin ces jeunes quand ils grandissent et qu'ils deviennent adolescents, ils prennent leur décision
de sortir sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux et tous les moyens numériques de communication sont utilisés par les orchestres maintenant depuis longtemps, comme dans tous les secteurs de la vie, enfin de l'activité économique d'un territoire et artistique. C'est un outil de communication qui est absolument fondamental pour nous et qui touche toutes les générations. On sait que Facebook, pour ne pas le citer, touche aujourd'hui des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, on l'utilise pour ce type de public. Et on sait que les réseaux sociaux, eux, vont toucher un public beaucoup plus jeune. Donc, il est aussi utilisé. Au moment où Twitter est apparu, il y a une grosse vingtaine d'années, on s'est posé la question, on s'est dit, quelque chose d'étrange, ça n'a strictement aucun intérêt pour nous. Les orchestres se sont dit ça. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était un outil de communication comme un autre. Simplement, dans l'usage qu'on peut en faire, il faut suivre les différentes cibles qui s'intéressent à tel ou tel outil contemporain de communication. Donc, en fait, ça nous permet de segmenter le public en utilisant les réseaux sociaux en fonction de l'âge et des centres d'intérêt de ceux qui les pratiquent.
Merci. Merci beaucoup. Il faut qualifier le public, effectivement, et le segmenter, le qualifier. Et une dernière question pour concernant le répertoire, la connaissance du répertoire. Le premier réseau culturel de France, c'est le réseau des médiathèques. Est-ce que l'association travaille de manière particulière sur la promotion du répertoire fin 19e, 20e et début 21e avec les réseaux de médiathèques?
Donc oui, les médiathèques sont notamment des lieux de rencontres et de débats, d'informations, bien sûr. Mais le point central de rencontre entre le public et l'orchestre et sa musique, c'est vraiment la salle de concert. Donc il peut y avoir des partenariats spécifiques sur certains territoires avec les médiathèques, mais la meilleure connaissance de l'œuvre, on l'a à l'écoute, avant même de l'avoir dans des livres, évidemment, ou même des enregistrements.
C'est clair, merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. C'est la fin de l'entretien, il est déjà 17h34. Merci à nouveau pour ces précisions. Il faut saluer de notre part, de la part du CNFPT, vos collègues qui ont traversé une période un peu plus difficile que beaucoup d'autres collègues peut-être dans la filière culturelle. Chers auditeurs, j'espère que nous avons pu vous apporter quelques éléments sur l'activité et l'importance de l'Association française des orchestres. Chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Fréquence T, la radio des agents territoriaux. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne soirée.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.